last year Sidney Lumet was here, and he had a very good time. So I said yes this year, and I'm happy to be here.
The only relationship to a Hollywood studio is whether the picture makes money. If it makes money, there's no problem. It could be about the beautiful life of Fidel Castro. They would do it if they thought it would make money.
To miał rację. Ten, co leci, czekał w górach. Czy ten, co się ukorzył i służy?
Au sommaire du journal du festival, on retrouvera bien sûr évidemment un agenda de quelques films à voir et notamment le début de la compétition européenne pour aujourd'hui, jeudi 14 novembre. Mais tout de suite, un focus sur le dernier long métrage de Jean-Michel Bertrand, Marche avec les loups, proposé dans le festival des enfants.
Je n'ai aucune chance de le rattraper. Mais je vais essayer de suivre sa trace le plus longtemps possible. Savoir dans quelle direction il va aller. Vers quel nouveau massif il se dirige. J'ai envie de savoir où ils vont. Je voudrais comprendre. C'est un long voyage entre leur monde et le nôtre. Si proche et si éloigné à la fois.
Marche avec les loups est le nouveau film de Jean-Michel Bertrand. Ce deuxième volet qui fait suite à son premier long métrage intitulé La Vallée des loups, sorti en 2017, était présenté en avant-première dans le cadre du Festival des enfants de la 20e édition du Arras Film Festival. Cette fois-ci, il a décidé pendant 3 ans de suivre la trace d'un jeune loup en migration qui cherche un nouveau territoire. Tout au long du film, on découvre les paysages époustouflants des Alpes et du Jura, la beauté sauvage de la nature, les animaux qui y vivent et bien sûr les loups. On s'aperçoit également, hélas, que la bêtise humaine et l'urbanisation à outrance du milieu naturel pourraient détruire toute cette beauté. Un très joli film qui donne à réfléchir sur la cohabitation de l'animal et l'homme et qui a ravi les spectateurs. Entretien avec le réalisateur Jean-Michel Bertrand à l'issue de la séance. Jean-Michel Bertrand, vous êtes venu donc sur le Racine Festival pour présenter votre deuxième volet, hein, Marche avec les loups. Le premier volet était sorti en 2017, La Vallée des loups. D'abord, rencontre avec le public, en résumé, comment ça s'est passé avec eux?
Ah ben là, ça a été énorme, hein. Beau débat, en plus plein d'enfants. Et ce qui a été bien, c'est que la parole a été vraiment donnée aux enfants pour poser des questions. Et j'adore ça, parce que les enfants, ils n'ont pas de filet, ils n'ont pas de tabou. C'était super. Vraiment.
Est-ce que ce sont aussi les loups qui vous ont donné un petit peu l'occasion de faire ce deuxième film par leur migration ?
Mais ce qui m'a donné l'occasion de faire ce deuxième film, c'est vraiment de sortir de la Vallée des loups. Et c'est venu en fait de tous les débats que j'ai faits en accompagnant la Vallée des loups avec le public qui se questionnait sur qu'est-ce qu'ils font ces loups. Évidemment, les loups sont très territoriaux et ne supportent pas d'être trop nombreux sur un territoire. Donc du coup, il y a énormément, ça bouge quoi. Hein. Et les loups s'en vont et vont s'installer sur de nouveaux territoires. Et j'ai trouvé que c'était une évidence après de faire une suite, mais qui n'est pas une suite pour faire une suite, une ressucée, c'est vraiment faire une suite logique, c'est-à-dire de sortir de la vallée et d'aller de les suivre sur ces nouvelles installations et sur évidemment le questionnement que ça implique, qui empiète sur le territoire de l'autre. Alors non seulement les loups entre eux, mais évidemment nous, l'homme, quelle place laisse-t-on à la nature sauvage?
Alors l'équipe de tournage pour ce deuxième film, elle était plutôt réduite?
Elle est toujours réduite, c'est toujours la même en fait. Moi je suis beaucoup sur le terrain, je m'imprègne, je me nourris, je filme tout seul. Et j'ai Marie Amiguet qui est la chef opératrice et qui vient cadrer, qui vient me filmer. Alors elle vient, on va dire, sur un mois, on va dire qu'elle vient passer une semaine ou 15 jours, ça dépend des fois sur le mois. Et puis Boris Jolivet, mon ingénieur du son, qui est une bête à la son et qui vient prendre les sons en direct dans la nature, en quadrille, etc. pour le 5.1 du cinéma. Et l'autre, il est audio naturaliste, donc c'est... Tout est raccord, quoi. Et c'est équipe ultra light sur le terrain. Et après, les moyens, évidemment, derrière du cinéma, en post-production, montage, musique et tout le reste.
En milieu sauvage, vous devez également vous adapter à son fonctionnement. Il y a une part d'improvisation, quand même, en collaboration, certes, avec le milieu naturel. naturel. Et les autres animaux qui y vivent, rien n'est calibré d'avance, ce n'est pas vous qui décidez.
Ben, le film, c'est ce que j'ai dit souvent, le film s'écrit au fil du temps. Moi j'ai une idée de départ, je me dis je vais filmer, essayer de filmer ces jeunes loups qui quittent le territoire. Donc premier truc que je sais, c'est que je vais mettre des caméras automatiques sur les cols par où les jeunes loups peuvent partir. Et puis je me dis que je vais aller vers le nord s'il y en a un qui va vers le nord. Et après tout s'écrit au fur et à mesure, et c'est ce que j'adore. C'est-à-dire que c'est pour ça que tout se fait en deux temps. C'est-à-dire que je vis les choses d'un côté tout seul, et après on remet en scène pour raconter l'histoire quand même, parce que le but c'est vraiment de faire un film. Mais ce que j'adore, c'est que dans un film cinéma grand public, les gens vont voir des vrais loups sauvages filmés dans leur milieu naturel. On ne va pas fictionner jusqu'à aller avec des loups imprégnés ou apprivoisés, ce qui pour moi est un non-sens. De dresser des animaux pour parler de la liberté, c'est absolument immoral à mon goût.
Alors quand on tisse une telle intimité étroite avec ces loups en tant qu'être humain, comme vous l'êtes, évidemment, quelle est la limite à ne pas dépasser? Et est-ce que c'est pas trop dur après de venir à la réalité du justement dans le monde des humains?
La limite à ne pas dépasser, c'est de ne pas arriver à l'habituation, c'est-à-dire à vraiment ce que les loups soient familiers avec nous, parce que justement ça peut créer déjà des comportements parfois qui peuvent être déviants, et en plus leur faire baisser la garde par rapport aux autres hommes qui ne sont pas que des copains. Donc de garder toujours une forme de distance, de respect, de prendre ça comme un cadeau, mais de ne pas vouloir être trop gourmand, pour moi c'est essentiel. On n'est pas dans des records, et je suis le copain des loups, voilà, c'est pas du tout la vision. Donc il y a toujours une forme de barrière volontaire et un recul. Et après quand on quitte ça, évidemment ça fait tout drôle, mais le fait de pouvoir en parler comme là avec vous, comme au cours des débats, ça permet aussi de défendre le côté, pour moi c'est un côté vraiment militant, de défendre un petit peu ces animaux qui sont quand même très très mal vus, essayer aussi de dialoguer avec les acteurs, notamment les bergers, les éleveurs qui sont impactés par le retour du prédateur, et de trouver des solutions possibles en dehors de ces tirs de loups qui sont complètement inutiles, et en dehors des insultes entre éleveurs et écolos. Donc il y a un gros travail là-dessus qui me passionne, mais aussitôt que je rentre à la maison, quand j'arrive, le lendemain, je suis déjà sur mes caméras automatiques voir ce qui se passe, parce que ça ne s'arrête jamais ce truc-là. Et donc j'arrive assez bien à lier le tout. Après, il y a vraiment, comme on dit, un temps pour tout, et je fais ça quelques mois, et il y a un moment où j'en peux plus, et je dois retourner vraiment au bivouac et m'immerger. Mais j'aime bien le côté de défendre cette cause-là.
Vous racontez l'histoire des loups, mais aussi d'autres animaux, évidemment, et de la nature en général. Je pense qu'on peut dire aussi que c'est un peu votre histoire, à vous, également, en tant que humaniste de la nature.
On cherche le loup, on se découvre soi-même, hein. On cherche le loup, on découvre les humains avec leur irrationalité, leur délire. Donc évidemment, il y a un côté très humain là-dedans, et c'est ce que j'aime, et c'est pour ça que ce film n'est pas un documentaire sur les loups, que c'est une histoire et qu'il y a tout ce côté justement plus philosophique, je disais politique ou militant, et d'avoir un recul sur soi-même. Et évidemment, c'est quand on est au bivouac, quand on est seul pendant des jours ou des semaines, qu'on se découvre soi-même et qu'on a envie de raconter des choses. Donc il y a tout cet aspect-là qui pour moi est essentiel. C'est pour ça que je ne pourrais jamais faire de film de commande. Je me laisse aller à mes instincts, à mes délires, et j'essaie de partager ça avec le public. Pour moi, c'est vraiment essentiel, et seul le cinéma offre ça, parce qu'on est dans des fabrications qui ne sont pas du tout formatées. Les producteurs, les distributeurs nous laissent la liberté, et aujourd'hui, c'est le seul support audiovisuel pour moi, sauf peut-être les blogs, évidemment, sur Internet, où on fait un peu ce qu'on veut. Mais pour le grand public, c'est un super moyen, donc j'adore. Donc on dépasse les clichés, les reportages, les trucs, et on est sur des choses beaucoup plus profondes. Au milieu de tout ce merdier, il faut qu'ils arrivent à trouver un nouveau territoire. Je les perds, je les retrouve. Je sais même pas si c'est toujours les mêmes. La force du loup, c'est le groupe.
On écoute pour terminer la réaction de quelques jeunes et moins jeunes spectateurs qui sont unanimes après avoir visionné le film et assisté à la discussion qui a suivi la projection avec le réalisateur.
C'était très joli, c'était un très beau documentaire sur les loups.
Ton moment préféré, toi, c'est quoi?
Quand il est sur le point de pleurer en regardant le cahier de la femme.
Bah évidemment, on a compris qu'il fallait sauver la nature et que les loups, ce n'est pas des sauvages. Ils sont comme nous.
Bah, le film, il est très beau. Les paysages sont impressionnants. Ça donne envie d'aller voir les Alpes et les loups aussi.
Les loups, c'est nous pour les loups.
Oui, voilà.
C'est nous. J'ai lu l'équivalent d'un auteur qui est au Canada, qui a passé plusieurs saisons. Et il y a même eu, il y a raconté une anecdote qui m'a fait sourire pour voir s'il était accepté. Il a vu les loups qui marquaient leur territoire. Il dit, je vais faire comme eux. Il a uriné dans une boîte de conserve, puis s'est marqué un territoire. Et il a vu que les loups, on l'a accepté, qui a été accepté par la meute. Et par la suite, quand il s'est dirigé, il y allait près des petits, là où il y avait les femelles, il se dit, ah, attention. Puis il s'est rendu compte qu'ils l'ont accepté, qu'il fait du quoi. Et ça m'a...
C'était très courageux de partir comme ça, tout seul. Mais c'était très bien.
Franchement, des belles images, des beaux paysages, très bien décrits. Et on a appris plein de choses. C'est une découverte. Et je ne regrette pas du tout.
D'abord, c'est les décors. C'est le... On est vraiment captivé par la marche de cet homme après les enquêtes de ces loups. Il est vraiment immergé dans la nature. Et donc, comme c'est un défenseur du loup, mais aussi de la nature, il nous emmène dans cette quête extraordinaire. Et en sortant comme ça, on est réconcilié avec le loup.
Bah, j'ai bien aimé, moi.
Ton moment préféré du film, c'était quoi ?
Quand on voyait les loups passer aux caméras.
Bah, c'était un très beau documentaire, on a appris pas mal de choses. Donc oui, c'était sympathique, surtout pour les enfants.
C'était très beau. Quand il y avait les caméras, on voyait des loups.
J'ai trouvé ça très joli, plein d'humanité. Ça nous rappelle aussi à quel point il faut prendre soin de la Terre et qu'on peut tous cohabiter ensemble. C'est un message plein de respect par rapport à la vie.
J'ai vraiment adoré. Je ne sais pas comment le monsieur il a fait pour vivre par des températures comme ça extérieures. Et c'était vraiment une belle immersion dans la nature. C'est très bien.
C'est un gros travail qu'a effectué ce monsieur pendant 3 ans, je crois. Et on a vu un lynx en plus, des loups. Non, c'était parfait.
Nous avons beaucoup aimé le film, on a aussi beaucoup aimé le débat, c'était une belle découverte.
Ah, j'ai adoré, les gens qui aiment la nature sont passionnants et lui, il a les yeux dans le ciel à longueur de film et puis quand il traverse la ville, il regarde par terre. Il est entier et c'est beau à voir et de voir qu'il ait fait le déplacement pour partager cette passion. C'est un bon moment pour tout le monde. Quoi.
Ton moment préféré du film ?
Dans l'écureuil, il mangeait les noix. En fait, il allait dans la poubelle. Il avait garé toutes ses noix devant sa cabane et il avait l'écureuil qui mangeait dans sa poubelle.
Je trouvais que c'était un beau film qui racontait bien l'histoire des loups. Et on sentait que vraiment, il était passionné, celui qui a raconté.
Ton moment préféré du film, c'est lequel ?
C'est un moment où on a vu une scène où il y avait un, je sais plus c'est quel animal, qui sautait au-dessus d'un loup et c'était très beau à voir.
J'ai beaucoup aimé ce film, en fait, c'était très beau, les paysages étaient magnifiques et puis on sentait la passion de Jean-Michel Bertrand, on sentait sa passion pour les loups.
Marche avec les loups de Jean-Michel Bertrand sortira sur les écrans français le 15 janvier 2020. On passe maintenant à un agenda de quelques films à voir pour aujourd'hui, jeudi 14 novembre. C'est le début de la compétition européenne et les premiers films projetés en salle du Megarama sont Let There Be Light, film slovaque de Marko Skop à 16h30, un drame ayant pour thème la montée de l'extrémisme de droite en Europe. Le film roumain Cartulan de Liviu Chandulescu qui raconte l'histoire d'un vieil homme qui veut organiser ses funérailles à l'avance comme la tradition l'exige mais qui est en conflit avec le prêtre du village et ce sera à 19h et en présence du réalisateur. Et Free Country, film allemand de Christian Alvart, un polar classique se situant dans un contexte socio-historique après la réunification de l'Allemagne. Parmi les séances avec invités à 14h au Megarama, toujours en salle 1, rencontre avec l'équipe du film en avant-première 2. À 18h30 au Casino, salle 1, rencontre avec l'équipe du film en avant-première également, un vrai bonhomme. À 19h, Erased, le film slovène dans la catégorie Vision de l'Est en présence du réalisateur, ce sera en salle 2 du Megarama. Et à 21h15, autre avant-première en présence de l'équipe du film, Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, et ce sera en salle 1 du Casino. C'est la fin du 4e épisode du journal consacré au Arras Film Festival. Prochain épisode, demain, à la même heure.